Bonjour, je m'appelle Bénédicte, j'ai 46 ans et je suis child-free, donc sans enfant, heureuse de l'être et surtout sans regret. Alors ce choix de ne pas avoir fait d'enfant est davantage un choix intime qu'un choix militant. Je ressentais pas du tout ce besoin de maternité que peuvent ressentir d'autres femmes et j'ai choisi de suivre mon chemin et de pas me forcer à rentrer dans un carcan sociétal qu'on veut souvent imposer aux femmes, c'est-à-dire de devenir mère. Et en fait aujourd'hui à 46 ans, je peux dire que j'ai vraiment trouvé mon équilibre comme ça. J'aime par-dessus tout, je dirais, ma liberté de vie sans enfant. Alors ça a pas été sans questionnement et notamment le questionnement du sens et de la transmission, mais finalement, on trouve des solutions et la transmission ne se fait pas obligatoirement dans un cadre parental et peut se faire de multiples façons.
Ah bon, tu veux pas d'enfant ?
Mais pourquoi ?
Eh oui, pourquoi on serait obligé de se justifier sur un non-désir simple en soi ? C'est juste un choix personnel qui n'impacte pas la vie d'autrui, alors pourquoi répondre ? Pour expliquer calmement qu'on est en droit de ne pas vouloir et pour aider les mentalités à évoluer. Voilà pourquoi. Si on regarde le monde dans sa globalité, la femme dans de nombreux pays aujourd'hui n'a pas encore vraiment le choix de décider d'être mère ou pas. Si nous, nous avons la chance de le pouvoir, ce n'est pas pour être stigmatisée. Alors sommes-nous dans la nécessité de normaliser le non-désir d'enfant ? Nous allons laisser la parole sur ce podcast à Bettina Zourli, autrice et journaliste, qui tient le compte Insta « Je ne veux pas d'enfant ». Si certaines ont du mal à trouver leurs mots face à ce fameux « pourquoi », je vous conseille de l'écouter avec attention, elle vous sera d'une grande aide. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast « Parents galère sa mère », un spécial « Child Free ». Bonjour Bettina Zourli.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez définir déjà, avant qu'on commence, ce qu'est le mouvement Child Free ? C'est né comment et pourquoi ?
Alors avant toute chose, moi je me définis effectivement en tant que Child Free. Littéralement, ça veut dire libre d'enfant. Mm-hmm. Et en fait, c'est vrai qu'on utilise ce mot-là en français parce que on n'a pas de traduction française du terme officiellement. Mm-hmm. Et c'est un mot qui a été utilisé pour la première fois dans les années 70 aux États-Unis. Mm-hmm. Pour parler justement à la différence des personnes qui soit ont des enfants, soit non pas, mais plutôt par circonstance, donc là on dit childless en anglais,
ouais.
Et bien vraiment d'appuyer cette démarche, on va dire, positive, voire ce choix et ce désir en fait de ne pas être parent. Après, moi, parler de mouvement, je pense que j'en ai parlé peut-être il y a quelques années, mais maintenant j'y reviens dans le sens où j'ai découvert que finalement le taux d'infécondité des femmes, notamment en France au fil des décennies, il était toujours assez similaire. C'est-à-dire que les femmes nées en 1900, il y en avait un quart, donc 25%, qui n'avaient pas d'enfants à la fin de leur vie fertile. Alors mm-hmm. On ne sait pas si c'était des child free ou pas,
ouais, oui, bien sûr.
Mais en tout cas, je pense pas tant que ce soit un mouvement que ça finalement. C'est juste que maintenant on le médiatise. Et on a plus d'espace pour en parler.
Et ne pas vouloir d'enfant, ça a toujours existé.
C'est ça. Je pense qu'en réalité, en fait, là, ce qu'on, des personnes comme moi ou les articles qu'il peut y avoir sur ce sujet mettent en avant, c'est qu'on montre la possibilité d'être légitime en ne souhaitant pas d'enfant et en étant une femme surtout qui ne veut pas d'enfant. Par contre, effectivement, je pense qu'il y a de fortes chances que ça ait toujours existé, on est bien d'accord.
oui. Et pourquoi c'est ancré en nous aussi fortement d'en vouloir des enfants ? Est-ce que c'est dû, d'après vous, à la pression qui nous entoure, la pression sociale ?
Oui, selon moi, il y a vraiment ce qu'on appelle encore, que certaines personnes appellent encore aujourd'hui instinct maternel.
Oui.
C'est quelque chose qui s'est construit au fil du temps. C'est-à-dire que déjà, on n'aime pas ses enfants de la même manière au Moyen-Âge qu'en 2023. Et surtout, on n'a pas du tout la même rapport filial aux enfants au fil des siècles. Et c'est vrai que voilà, en fait, certes, on a toujours fait des enfants, certes, il y a quand même un instinct de reproduction et de soins aux nourrissons qui existent. Néanmoins, ça a été tellement instrumentalisé à des fins guerrières, à des fins religieuses, à des fins économiques, capitalistes, etc., qu'en fait, avant qu'on ait l'éventail de contraception ou l'accès à l'avortement, on ne pouvait pas vraiment parler d'un désir ou non-désir d'enfant. C'est juste qu'on avait des enfants et c'était comme ça.
Non, on ne se posait pas la question, ça c'est clair.
C'est ça. Et maintenant, si on prend la date française de l'avortement, ça fait 50 ans en France qu'on peut choisir d'avoir des enfants ou non, quoi.
Pourquoi, d'après vous, on en entend autant parler aujourd'hui, justement, de ces femmes child-free ? Pourquoi c'est autant médiatisé aujourd'hui ?
Pour moi, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la médiatisation qui vient de médias à actuellement et très récemment plutôt orientée à droite, qui nous alarme en fait sur la baisse de la natalité. C'est vrai que 2022, ça a été l'année où il y a eu le moins de naissances en France depuis l'après-guerre. C'est une réalité. Et du coup, qui nous alarme sur le fait que, bah, justement, ce fameux mouvement child free, on serait un danger pour la civilisation, etc. Et en réalité, en filigrane, ce qui est dit, c'est que les femmes occidentales, notamment, on ferait moins d'enfants et que, bah, il y aurait d'autres personnes qui viendraient, notamment liées à l'immigration, etc., qui feraient plus d'enfants pour nous remplacer. Donc, c'est vraiment des discours d'extrême droite qui instrumentalisent, justement, les ventres, en fait, les utérus, en disant qu'il faudrait continuer à faire des enfants pour sauvegarder notre civilisation. Donc, il y a déjà ça. Et après, il y a effectivement... Enfin, la médiatisation n'est pas forcément toujours politisée dans ce sens-là, mais en tout cas, elle montre quand même quelque chose qui est encore perçu comme un peu anormal et pathologique. Ouais, c'est-à-dire qu'on a encore du mal à admettre que bah, juste le désir de ne pas être parent est tout aussi naturel, viscéral et inexplicable que le désir d'être parent. C'est-à-dire que moi, j'utilise vraiment ces mots-là parce que, en fait, c'est un appel du ventre aussi, comme peut-être l'appel du ventre des gens qui veulent des enfants et des femmes qui veulent des enfants. Moi, j'ai jamais voulu d'enfants. Vraiment, ça ne, c'est pas, enfin voilà, c'est complètement inexplicable, quoi. Et du coup, voilà, il y a encore ce, on est un peu perçu comme des bêtes bizarres et du coup, il faut mettre en avant tout ce qui est différent et tout ce qui questionne, en fait, et ce qui dérange, en fait, d'une certaine manière, quoi.
Justement, on sent que ça dérange profondément qu'une femme aujourd'hui puisse dire et qu'elle, du coup, elle doit obligatoirement se justifier auprès des autres. Est-ce que cette justification, vous pensez, c'est parce que ça rassure d'avoir une explication tangible ? On a besoin de se dire, c'est parce que le monde aujourd'hui est absolument affreux et que je ne veux pas faire d'enfant et lui laisser cette planète toute pourrie. Non, mais c'est ça, on a besoin de se justifier, on a besoin de trouver une explication, en fait.
Exactement. C'est vrai que souvent, quand quelqu'un dit « je ne veux pas d'enfant », la première réaction, c'est « pourquoi ?» Donc, avec cette idée de « il faut forcément une raison rationnelle », en fait, le désir simple n'est pas perçu comme légitime. Et tout à fait, tu as entièrement raison, il y a aussi cette idée de trouver une explication rationnelle, mais qui soit dans l'air du temps. C'est-à-dire que moi, j'ai pas mal discuté avec des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui me disent « moi, je donne l'argument écologique parce qu'en fait, ça clôt le débat.
Ouais. »
C'est-à-dire que quand tu dis « c'est pour la planète », on va dire, alors que c'est faux, hein, je veux dire, moi, je trouve que c'est pas un bon argument dans le sens où il faut pas dire aux gens d'arrêter de faire des enfants pour sauver la planète. C'est pas du tout ça la solution.
Ouais.
Mais en tout cas, c'est abordé. Enfin, il y a plein de femmes qui me disent donner cette raison-là pour qu'on les laisse tranquilles, alors même qu'en fait, s'il n'y avait pas de crise climatique, elles ne feraient quand même pas d'enfants, tout simplement parce qu'elles n'en veulent pas.
Le bon argument, en tout cas, pour abattre le caquet des autres.
Voilà, exactement.
Mais par contre, est-ce que certaines femmes peuvent avancer aussi cette explication, si on cherche une explication, de dire qu'aujourd'hui, si je n'ai pas envie de faire d'enfants, c'est aussi parce que la parentalité est un idéal qui est trop difficile à tenir, quoi, pour les femmes aujourd'hui?
Oui, alors ça, c'est effectivement un autre élément et c'est super qu'on en parle parce que c'est vrai que moi, quand j'ai remarqué dans les reportages, dans les articles dédiés à ce sujet, la question féministe, en réalité, elle est très peu abordée. Et moi, c'est vrai que autant ce désir est naturel chez moi, autant je suis aussi militante féministe. Et du coup, je vois bien qu'à l'heure actuelle, malheureusement, l'entrée en maternité pour les femmes, c'est un risque multifactoriel d'appauvrissement, d'isolement social, de dépression postpartum notamment. Je veux dire, on en parle très peu et ça concerne heureusement un très petit chiffre, mais la deuxième source de mortalité des jeunes mères, c'est le suicide, en fait. Et du coup, ça, on le dit jamais. Il y a aussi, il y a en fait une source multiple de problématiques qui arrivent avec la maternité. Et moi, mon discours, c'est pas de dire du coup, il faut arrêter de faire des enfants si on est féministe. Pas du tout. Mais du coup, il faut bien qu'on mette ça en avant pour régler ces problèmes-là et que faire un enfant ou ne pas en faire ne soit pas une source de stigmatisation, mais surtout de discrimination en réalité, quoi.
Bien sûr. Vous pensez que les parents, ils voient une attaque personnelle de leur propre choix quand ils se retrouvent face à des femmes qui affirment justement qu'elles ne veulent pas d'enfants, parce que c'est tendu entre les mères qui en ont et les mères qui n'en veulent pas. Parce qu'en gros, la mère qui n'en veut pas, elle passe quand même pour la grosse égoïste, quoi.
Exactement. C'est vrai que ça, c'est un peu l'attaque numéro un qu'on reçoit quand on dit qu'on ne veut pas d'enfants, c'est tu es égoïste. Et je pense que, alors c'est très difficile à quantifier, je veux dire, on pourrait faire des études sociologiques là-dessus, mais en tout cas, moi je vois qu'il y a des tensions qui se créent quand je dis que je veux pas d'enfants, notamment avec certains parents, parce qu'en fait, moi ce que j'interprète, vraiment c'est une interprétation personnelle, mais c'est qu'on n'est pas encore 100% rentré dans l'ère du vrai choix. Parce que si tout le monde avait réellement eu l'espace réflexif pour se dire « Ok, est-ce que c'est vraiment ce que je veux ? Dans quelles conditions ? Dans quelles modalités ?» Ben, y a très peu de raisons, enfin, y a très peu de risques pour que les gens le prennent mal si tu dis que tu veux pas d'enfant.
Ouais.
Moi, ce que je vois aussi pas mal, c'est ça peut être de la jalousie. Alors, de la jalousie dans le sens où, malheureusement, en fait, aujourd'hui, moi, ce que je déplore, c'est que avoir un enfant dans la société à l'héritage patriarcal, ça on l'a dit, mais surtout capitaliste dans lequel on est, c'est que c'est hyper difficile. Ça doit être, ça doit être certainement la tâche la plus difficile à mener parce qu'en fait, on te demande, notamment quand t'es une femme, d'être productive avec une carrière, mais d'être productive au foyer. Enfin bref, il y a vraiment cette somme d'injonctions qui s'accumulent sans qu'elles soient délestées par l'aide d'un compagnon, même s'ils sont de plus en plus nombreux dans le cadre des couples hétéros à s'investir dans le foyer. C'est pas encore malheureusement équitable.
Non, mais je le comprends. Ouais. Moi, je me souviens que quand j'ai eu mon premier enfant, j'avais une copine qui avait pas encore d'enfant et elle venait me voir à la maison et j'étais pas bien. Ouais, j'étais en vrai baby blues et je la voyais partir. Elle allait à la danse à droite à gauche et je fermais la porte quand elle repartait et je me disais mais merde quoi. Merde, pourquoi pas moi ? Ouais, donc on peut comprendre aussi ce sentiment.
En fait. Mais je pense que c'est vraiment lié à notre ère capitaliste et individualiste, c'est-à-dire qu'on nous a dit tu peux tout avoir. En réalité, l'arrivée d'un enfant, c'est juste un bouleversement tellement énorme que ta vie d'avant, évidemment, n'est pas la même. Plus le manque peut-être d'aide communautaire, c'est-à-dire qu'avant, un enfant, il arrivait dans une famille, c'est toute la famille qui s'en occupait, dans les familles élargies. Maintenant, c'est le foyer avec deux parents, dont l'un qui est parfois très absent. Donc, ça rend la chose très, très compliquée, en fait. Et du coup, moi, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut arrêter de faire des enfants. Il faut réformer notre système pour que... moi, je suis très, par exemple, en faveur de la coparentalité, mais communautaire, en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer 4 ou 5 adultes qui soient responsables d'un enfant, en fait, pour alléger la charge mentale de tout le monde.
Complètement.
Et faire mieux pour les enfants et pour les parents, du coup.
Alors revenons à ces femmes qui veulent pas d'enfants. La notion de regret est souvent mise aussi sur le tapis. Est-ce que par exemple une femme jeune, parce qu'il paraît qu'il y en a de plus en plus, qui décide de se faire ligaturer les trompes, est-ce qu'elle doit forcément passer par une étape psy pour travailler sur son éventuel regret ?
Alors oui, c'est une bonne question. Alors en France, non du coup. Donc dans la loi de 2001 qui autorise la stérilisation volontaire, il n'y a pas du tout, enfin c'est juste il faut être majeur et respecter un délai de réflexion de 4 mois.
Ouais.
Néanmoins, il y a effectivement des praticiens et praticiennes qui demandent une lettre d'un psychologue ou d'un psychiatre pour attester de je ne sais pas quoi en réalité. Et moi, donc j'ai fait une ligature des trompes et j'ai dû avoir 2 rendez-vous psy obligatoires. Mais je l'ai fait en Belgique où le procédé est un peu différent. Mais du coup, j'ai dû passer par ces deux heures avec une psychologue pour parler de
regrets. Est-ce qu'on vous pose cette question-là est-ce que vous pourriez ne pas regretter, etc. Est-ce qu'on doit travailler dessus ?
C'était pas dit comme tel, mais effectivement, il y a l'idée quand même, je pense, de détecter potentiellement un éventuel regret. Ce qui, moi, me perturbe beaucoup dans le sens où... Alors déjà, il y a très peu d'études sur le regret des personnes qui n'ont pas eu d'enfants et qui ont fait une ligature. Mais en tout cas, le peu d'études qu'il y a eu, c'était pas en France, c'est aux États-Unis. Le taux de regret est assez élevé. Il est entre 5 et 15% avant 30 ans.
Ouais.
Et pour les femmes qui ont fait une ligature après 30 ans, il descend à moins de 5%. Et selon les études, il est entre 1 et 5% de taux de regret. Et moi, j'aime bien mettre en parallèle ce chiffre-là avec les sondages qu'il y a sur le regret parental.
C'était ma question, oui, j'allais vous poser justement après. Est-ce qu'on va le mettre en regard avec le regret maternel ?
Voilà. Et donc, moi je dis parental, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est les mères qui répondent à ces sondages-là. Mais donc, le regret parental, c'est de l'ordre de 13% en France. Donc, moi, ce que j'aime pas du tout, c'est vraiment cette idée qu'on va seulement stigmatiser le fait qu'on peut regretter parce qu'on serait contre nature et que la nature, ce serait de désirer son enfant et du coup de ne pas le regretter. En réalité, le parcours psy, moi, je pense que tout le monde devrait y avoir droit. Ça devrait être inclus. Et moi, je parle souvent d'un parcours parentalité. C'est vraiment ça, c'est-à-dire pas un permis de faire des enfants, pas du tout, mais un parcours de réflexion pour que les gens puissent prendre le temps de peser, de créer un projet de parentalité. Parce que souvent, aujourd'hui, moi, je pense quand on parle de désir d'enfant et pouf, on fait un enfant. Non, ça doit être un parcours de réflexion, en fait. Donc, comme le parcours de réflexion qu'on impose parfois à des gens qui veulent faire une ligature des trompes, par exemple.
On parlait justement, donc vous dites regret parental, moi je parlais de regret maternel. On en entend parler de plus en plus, mais on sent quand même que c'est extrêmement tabou. Qu'est-ce que vous pensez de ces femmes qui aujourd'hui osent parler justement de ce regret maternel ?
Moi je les soutiens effectivement. En tant que militante féministe, je soutiens aussi cette parole-là qui est, comme tu le dis, effectivement très très peu entendue et très peu légitime. Et en réalité, quand on lit les discours des femmes qui se livrent là-dessus, c'est qu'on se rend bien compte que c'est un regret maternel en société capitaliste et patriarcale. Donc, ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'en fait, souvent, ce qu'elles déplorent, c'est l'isolement lié à l'arrivée de l'enfant, c'est le manque de soutien de leur partenaire. Et donc, c'est en réalité le fait que tout repose sur elles et qu'elles perdent un peu leur identité de femme au profit de l'identité de mère, mais qu'en fait, elles n'ont plus d'espace à elles. Et c'est ça qui est hyper récurrent dans les discours, notamment le livre d'Orna Donat sur cette question, le livre aussi de Astrid Hurault-Deligny l'année dernière sur le regret maternel, elle parle exactement de ça. Donc en fait, je pense que c'est pas un regret en soi, même s'il y en a pour qui ça doit arriver, de dire mince, j'ai fait une erreur, en fait je voulais pas d'enfant. Mais souvent c'est juste, elle voudrait un enfant, mais pas que ce soit au détriment de leur vie à elle, en fait.
C'est ça, pas dans ces conditions. On parle des femmes. On parle des femmes qui veulent pas d'enfants, etc. Mais pour faire un enfant, il faut quand même être deux. Bon, en règle, on va dire globalement, il faut un homme et une femme, même si c'est pas toujours le cas. On en parle des hommes qui veulent pas d'enfants. Ils sont mal vus, eux, dans la société, s'ils expriment le fait de pas vouloir d'enfants, ou je sais pas, qu'on en parle pas beaucoup, en fait.
C'est complètement différent. Moi, je donne un exemple, c'est que le compte Instagram que j'anime s'appelle Je ne veux pas d'enfants. Il s'appelle pas Je ne veux pas être mère. Et pourtant, j'ai 92% des personnes qui me suivent sont des femmes, a priori. Alors c'est très binaire les stats d'Instagram, mais en gros c'est ça. Et là, on peut prendre un exemple assez récent dans les médias. Il y a eu début octobre une interview avec Salomé Sacqué qui, dans son livre « Sois jeune et tais-toi », disait « Je suis pas sûre de vouloir un enfant par éco-anxiété ». Elle disait « Je suis pas sûre ». Elle a pas dit « Je veux pas d'enfant ». Et une semaine après, tu as Thomas Pesquet qui a été interviewé sur la même radio en disant qu'il ne veut pas d'enfant parce qu'il veut pas imposer à sa femme la charge mentale parce que lui a un métier où il est pas là une partie de l'année quand même vu qu'il est,
il est très très loin.
Voilà. Et là, en fait, la différence de traitement, elle a été mais monumentale. C'est-à-dire que la première, Salomé Sacqué, s'est pris un shitstorm horrible, justement en mode les femmes égoïstes, blablabla, ça c'est la nouvelle génération féministe, etc. Et de l'autre, t'as Thomas Pesquet qui est encensé, adulé, en mode quel homme responsable, c'est super. Et voilà, donc il y a quand même un double traitement lié au genre. Moi, je reçois parfois des messages d'hommes qui me disent qu'ils se prennent aussi quelques petites phrases pas sympas. Mais en fait, c'est souvent pas du même ordre. C'est pas lié à l'égoïsme, c'est plutôt lié à la transmission du nom de famille. Donc c'est vraiment lié à quelque chose d'assez patriarcal finalement. Il faut continuer sa lignée, quoi, en tant qu'homme.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que justement ce non désir de parentalité soit plus tabou? Est-ce que vous avez des idées pour faire avancer les choses? Je sais que vous parlez beaucoup de dégenrer le langage de la parentalité. Est-ce que vous pouvez expliquer?
Alors ça, c'est plutôt dans l'idée d'arrêter de faire peser la parentalité uniquement sur les femmes dans la question du vocabulaire, avec le fait que tout est assimilé au féminin. Donc c'est assistante maternelle, c'est pas que la mère qui est censée assister, enfin bref, ce genre de choses. Après, pour l'arrêt de la stigmatisation des personnes qui ne veulent pas d'enfants, ça doit passer par débiologiser, en fait, pour moi, le désir d'enfant, enfin, doit être dénaturalisé, c'est-à-dire qu'en fait, on part encore du principe aujourd'hui qu'on est des personnes anormales, qu'on a une pathologie, parce qu'on pense aujourd'hui que le désir d'enfant est universel. Et le fait qu'il y ait une seule personne, comme moi par exemple, mais il y en a plein d'autres avant, des femmes qui ont vécu toute leur vie et qui sont mortes depuis, mais qui ont toujours été child-free leur vie durant, il suffit qu'il y ait une seule personne pour prouver que le désir d'enfant n'est pas universel. Donc il y a ça, et après moi je suis aussi très partisane, j'ai pas mal travaillé sur la culture pop, et donc pas mal partisane que ça passe par les représentations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la culture populaire, dans les séries notamment, les femmes qui ne veulent pas d'enfants, c'est quand même très très stéréotypé, donc c'est les carriéristes sans âme,
c'est vrai.
Qui sont prêtes à tout déboulonner sur leur passage, qui sont méchantes, qui sont des outsiders du coup, ou la femme hypersexuelle qui du coup ne respecte pas ses amis, qui pique les maris des autres, etc. Bon, on est quand même tout sauf ça, enfin je veux dire, ça peut arriver, on peut être hypersexuel, hypercarriériste et sans enfants, mais pas que. et on n'est pas forcément des marginales qui évoluent en opposition aux mères, quoi. Donc ça passe par faire évoluer nos regards et la production culturelle, je pense aussi là-dessus.
Du boulot, hein, quand même.
Ouais.
on va revenir maintenant sur un couple. Quel conseil vous donneriez, vous, à un couple ? On tombe amoureux de quelqu'un et on n'a pas du tout les mêmes envies. Voilà, on se retrouve qu'il y en a un ou il y en a une qui, justement, a un désir d'enfant et pas l'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
C'est vrai qu'en fait, moi, je ne vois pas le problème en soi. C'est-à-dire qu'on est... Bon, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que les couples aujourd'hui durent de moins en moins toute la vie.
C'est clair.
Et on peut aussi admettre de faire un bout de chemin ensemble et se dire, bon, le jour où le désir d'enfant de l'un ou le non-désir d'enfant de l'autre pose problème, en tout cas dans notre relation, on y mettra fin. Mais tout en profitant de ce moment ensemble, surtout s'il y a une entente magnifique par ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pense que là aussi, il faut un peu enlever cette notion de productivité du couple. C'est-à-dire qu'en fait, moi, par exemple, quand je me suis mariée, on m'a demandé pourquoi je me mariais alors que je ne voulais pas d'enfant. Dans cette idée qu'un couple doit produire quelque chose et notamment un enfant.
Donc, sinon, on ne se marie pas, quoi.
Voilà, alors qu'en réalité, le couple n'a d'autre finalité que lui-même, en fait. C'est-à-dire le bonheur des individus qu'il regroupe. Et même s'il y a un moment, au bout de, 3-4 ans, le désir d'enfant de l'un ou l'une arrive, on peut juste imaginer que là, ce sera la fin de l'histoire, mais d'une histoire qui a été belle. Et c'est pas une perte de temps, c'est pas rater sa vie ou gâcher quelque chose. En fait, ça n'a vraiment rien à voir.
Parce qu'en fait, on ressent une sorte de vide de projet quand on entend ça. C'est-à-dire que s'il y a pas, il y a une nécessité de se dire on est un couple, on n'a pas d'enfant, faut trouver une autre voie, un autre sens à sa vie.
Ouais.
Ça demande vachement de philosophie puis de déconstruction aussi de tous nos mythes sociaux, non ?
Ouais, c'est ça exactement. Et c'est vrai qu'en fait, pour moi, j'y reviens souvent. Je sais que je me répète un peu du coup, mais ça vient vraiment dans l'idée d'arrêter de considérer qu'on doit être productif en permanence, dans le sens où on a le droit en fait de ne rien produire en tant qu'être humain. C'est-à-dire que c'est dur à entendre dans notre société, parce que en fait on a de la valeur que quand on est utile, soi-disant, à la société. Mais en soi, c'est juste on est dans une ère capitaliste depuis plusieurs siècles, mais on n'a pas toujours évolué de cette manière-là. Enfin, la valeur de l'être humain n'a pas toujours été corrélée à sa capacité à produire quelque chose.
Ouais.
Donc je pense qu'on peut y revenir de ça en fait, et effectivement imaginer des relations et notamment dans le couple et dans la famille, imaginer d'autres choses. Moi, il y a aussi une pensée que j'aime beaucoup, c'est la philosophe Donna Haraway qui dit « il faut faire des parents et pas des enfants ». Donc c'est en gros l'idée qu'on peut faire peut-être un peu moins d'enfants, mais en faire mieux, prendre plus de temps pour s'occuper d'eux et du coup un peu répartir mieux aussi cette charge dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, moi je pense qu'il y a pas mal de choses, de pistes à imaginer et à mettre en place.
Est-ce que vous êtes optimiste par rapport aux nouvelles générations ? Moi, je sais que j'ai aussi un grand garçon, là, maintenant. J'en parlais quand il est né, il a 16 ans, il a une petite copine. Et c'est vrai que ça a été une conversation il n'y a pas longtemps à table où... c'est même pas tellement une question qui se pose comme nous, on se posait au même âge, on se disait on va se caser, on va faire des enfants. C'est plutôt un non-sujet pour eux. C'est-à-dire que, s'il y a enfant, il y aura enfant. S'il n'y a pas enfant, il n'y a pas enfant. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste, justement, sur les nouvelles générations, à se dire que tout ça commence vraiment à se déconstruire ?
Oui, je pense que vraiment, en fait, là, on a quand même des générations qui sont héritières, déjà, de transformations vraiment fortes dans la famille, à savoir, notamment le taux de divorce, de familles recomposées, de familles monoparentales, mais aussi avec l'apport des familles queer, donc qui sont clairement en dehors du schéma hétérosexuel. Je pense qu'effectivement, il y a quand même les nouvelles générations grandissent avec un panel de possibilités, en tout cas de... C'est moins unilatéral, on va dire. Le modèle familial est quand même très multiple aujourd'hui, donc c'est super. Et du coup, je pense que ça ouvre la voie au fait qu'il n'y a pas une seule manière de faire famille, il y en a plein. Par contre, je pense qu'il faut quand même se méfier, dans le sens où à chaque fois qu'il y a des avancées... progressiste pour les droits humains, on va dire, il y a toujours un retour de bâton qui est monumental, ça c'est certain. Et c'est vrai que là où il y a de plus en plus de personnes qui sont dans cette idée que on est vraiment, on fait vraiment ce qu'on veut de son corps et que l'enfant n'est pas obligatoire, ou que en tout cas la famille n'est pas forcément un couple hétéro et deux enfants, etc. Il y a aussi un retour conservateur hyper fort en Europe, qu'il convient, je pense, de garder à l'esprit pour pas s'asseoir. Enfin, c'est toujours pareil. C'est Simone de Beauvoir le disait déjà, hein, qu'il suffit d'une crise, je ne sais plus exactement sa citation exacte, mais il suffit d'une crise, d'un événement tragique, politique, pour que les droits des femmes reculent. Donc voilà, il faut toujours rester vigilant.
On reste vigilant et on garde espoir. Merci beaucoup Bettina Zourli pour avoir répondu à toutes nos questions. Merci.
Merci beaucoup.
Retrouvez sur le site parents.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, SoundCloud, toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas, Galère sa mère, l'épisode tout frais, tout neuf, c'est les premiers samedis du mois. Si vous avez envie qu'on aborde un thème qui vous tient à cœur, vous nous mettez 5 étoiles et vous nous envoyez vos suggestions en commentaire. Je suis Dorothée Saada, je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Acouboisis. À très très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.